Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne dans le cadre de nos émissions consacrées à l'art et la foi. Nous avons aujourd'hui avec nous dans le studio le père Kim Enyong qui est déjà venu nous parler de son enfance en Corée du Sud. Kim Enyong est un artiste peintre religieux et aujourd'hui reconnu dans le monde entier pour sa peinture. Il est né en 1940, sous l'occupation japonaise, comme il nous l'a rappelé. C'est une enfance marquée par la pauvreté qui entourait ce jeune enfant en qui naît ce désir de devenir peintre, d'étudier aux Beaux-Arts, ce qu'il va faire pendant 4 ans dans son pays natal, en Corée du Sud. Il va découvrir le christianisme en enseignant à des séminaristes dans son pays et va se faire baptiser en 1969. Le père Kim va rejoindre l'ordre des Dominicains en 1970 et vivre en Suisse pendant 5 ans où il étudiera non pas la peinture mais la théologie. Bienvenue dans notre émission, cher père Kim Enyong. Alors je voulais vous parler ou vous faire parler du rôle de l'artiste dans la société ou de la culture chrétienne. Et j'ai cru que vous aviez peut-être 2 ou 3 casquettes, celle d'un artiste peintre reconnu aujourd'hui dans le monde entier, celle d'un prêtre et celle en même temps d'un moine de l'ordre dominicain. Est-ce que vous avez eu une triple vocation?
Oui, j'ai beaucoup de titres comme cela, mais en réalité, je suis un pauvre être humain qui aime créer quelque chose étant image de Dieu. Nous sommes façonnés à l'image de Dieu. Et comme Dostoïevski a dit, la beauté sauve le monde. Alors, soit chrétien ou non chrétien, et la vocation de l'homme, c'est quelque chose tout à fait différent des animaux, si je puis dire. Donc, l'homme doit et créer quelque chose pour donner le sens de la vie. Moi, je dirais, quand le travail d'un artiste est très bon, cela est l'art sacré, non pas imposé par la forme. Et un non-chrétien peut être meilleur que les mauvais chrétiens. Donc, la formalité, c'est secondaire pour moi. Ce qui est important, ce qui est essentiel, c'est-à-dire la beauté, quand il s'agit de l'homme, la qualité humaine. Le reste, ça ne compte pas.
Vous avez dit dans notre dernier entretien que votre ambition est d'exprimer toute la lumière que vous avez reçue de la cathédrale de Chartres, qui est pour vous, comme vous l'avez dit à cette occasion-là, la plus belle cathédrale du monde. Alors cette cathédrale était pour vous donc une source d'inspiration en tant qu'artiste. Quel est le rôle pour vous de l'artiste dans notre culture? S'exprimer dans la beauté, comme vous le dites. Beaucoup d'artistes choisissent la voie non figurative, comme vous. Oui. La figuration ne vous a jamais tenté?
Si, même cet après-midi, je voudrais faire un dessin, par exemple, et montrer aux autres, c'est autre chose, mais comme la qualité humaine, il ne s'agit pas de figuration ou non figuration, c'est la qualité de travail qui compte. Et donc, quand je suis émerveillé par la cathédrale de Chartres, c'est justement avant de parler de bon Dieu, et rien que l'ambiance de la beauté est tellement impressionnante, et après on commence à découvrir. Ah, et puis je vois comment la cathédrale a été fondée de la même manière. Et si on veut faire l'art sacré, il faut travailler religieusement. C'est ça ce qui est important.
Dans votre peinture que vous avez faite avant de vous convertir, est-ce que vous sentiez déjà cette approche d'un travail qui élève l'âme?
Je dirais, je vois moi-même la différence avant ma conversion et après. ça ne vient pas d'un seul coup, mais de petit à petit, je suis vraiment orienté vers la lumière. Parce que, avant, mon travail était très horizontal. Ça manquait la dimension verticale.
Qu'est-ce qui vous poussait quand vous peigniez avant votre conversion ? Le désir de vous exprimer à travers la couleur ou une quête ? Est-ce, ou c'est juste le plaisir de jouer avec la peinture, avec la couleur ?
C'était simplement, je dirais, en résumé, la nécessité intérieure. Mais maintenant, c'est autre chose. Même je prends la responsabilité. Même si on dit « votre travail est magnifique », etc., je me méfie de cela. Il faut voir un siècle après qu'est-ce qu'ils vont dire.
Vous avez fait des tableaux, et sur ces tableaux qui sont caractérisés par quelques couleurs que vous aimez particulièrement, le bleu, le rouge, le vert, très parcimonieusement, du jaune. Oui. Nous parlerons de la symbolique que vous donnez à vos couleurs. Vous laissez beaucoup de blanc sur vos toiles.
Oui.
On vous appelle d'ailleurs le peintre du blanc.
Oui.
Est-ce que c'est aussi une manière de vous exprimer, de laisser ce vide autour d'une concentration de couleurs?
Très important. Et le vide doit aussi pas lent que la couleur. Entre le silence et la parole.
Alors, la peinture sur toile, la céramique que vous déformez pour ne pas rester dans un moule, et puis on va vous demander de faire des vitraux. Comment cela s'est fait ?
C'est une croix. C'est une croix en réalité. Mais je laisse guider.
Vous avez fait le premier grand ensemble pour la cathédrale d'Évry,
oui.
Qui est cette cathédrale si résolument contemporaine, ce qui ressemble absolument plus du tout à la cathédrale de Chartres. Comment est-ce que vous ressentez cette nouvelle cathédrale, cette nouvelle approche dans l'architecture?
C'est une question très intéressante pour les auditeurs, c'est que comme c'était une seule cathédrale française du XXe siècle, et le couvent a organisé une visite de cette cathédrale, et j'avais un confrère, en voyant les fenêtres vides, il a dit « ça serait bien que vous fassiez les vitraux ».
Et ça s'est fait comme cela.
Et puis après, le prieur a écrit à l'évêque, et voilà.
Alors, quelle est donc votre approche du vitrail ? Je propose que nous écoutions un petit morceau de Grégorien, que vous aimez beaucoup, et ensuite vous allez nous parler de cette première création de vitraux pour la cathédrale d'Évry. Vous avez fait dans les années 90, pour être très précise, à la fin des années 90, en 1998-19, les vitraux de la cathédrale d'Évry, cathédrale du XXe siècle, que vous avez connue lors d'une visite organisée par vos frères dominicains.
Oui, c'est vraiment très intéressant comme histoire. Et après le père Bobier qui était responsable des vitraux là-bas, si vous voulez, il m'a fait rencontrer Mario Botta, à qui j'ai présenté un catalogue, et puis il était favorable à mon travail, et après il fallait trouver un atelier autour de Paris. Alors de là, j'ai fait connaissance avec l'atelier Loire
à Chartres.
Oh, c'est ça, oui. Et comme J'avais toujours rêvé de faire des vitraux. C'était une chance. Et puis comme la dimension n'était pas terrible.
C'était des fenêtres de pas trop grande taille,
non,
qui vous permettaient de travailler. Est-ce que vous avez travaillé vous-même sur le verre?
Oui, déjà, oui. Mais d'ailleurs, l'atelier Loire m'a beaucoup aidé.
Oui. L'atelier Loire qui ouvre son atelier, oui, à vous, à des artistes et surtout à vous. Depuis plus de 10 ans, vous,
oui,
collaborez avec cet atelier.
Oui, oui.
Qui vous permet de peindre sur le verre et ensuite les spécialistes vont,
oui, mais surtout,
cuire la peinture.
Ils m'ont montré la possibilité.
Donc les premiers vitraux, le premier grand ensemble que vous faites dans le monde du vitrail et pour la cathédrale d'Évry, et là vous voulez vous mettre dans la tradition des maîtres verriers. Vous utilisez donc du verre de couleur avec de la peinture et des plombs.
Oui, d'abord, quand j'ai été accepté là-bas, j'ai pensé aussi le niveau théologique, parce que ce ne soit pas simplement décoration. Alors j'ai fait selon l'ordre l'arc-en-ciel vers l'autel. Et puis on est en pleinement gardé l'esprit de couleur, par exemple le rouge, la passion et la joie, jaune et la joie, et bleu comme l'image de la Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, etc. Et puis j'ai pensé et les 12 boîtes de couleurs qui viennent de 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, n'est-ce pas? Et ainsi, je pouvais intégrer ma pensée et à la réalisation des vitrails. Je crois, et pour cela, je dis, ma vocation est une.
Parce vous avez su unir cette, oui, vocation spirituelle, théologique, dans votre œuvre artistique.
C'est cela, oui, oui. Autrement, et n'est-ce pas, même vous m'interviewez, est-ce que vous êtes journaliste séparé en matière de la femme de tel, n'est-ce pas? Vous êtes en unité.
Voilà, on est une unité, et ce qui nous permet justement d'aller dans différentes directions.
Oui, inséparable, c'est votre être lui-même qui compte, n'est-ce pas? Oui.
Comment est-ce que vous avez mis en œuvre votre peinture? Parce que les vitraux sont fragmentés en différents morceaux. Est-ce que vous avez fait d'abord un dessin, un grand carton, à partir duquel les spécialistes ont découpé des verres? Comment cela s'est passé?
Pour ne pas impressionner les organisateurs, j'ai fait la maquette, mais ils ont été très compréhensibles. Alors même j'avais exposé, puis tout le monde était d'accord. Mais évidemment, quand on réalise sur le vitrail, c'est encore mieux, puisque le blanc est transparent.
Alors pour Évry, vous-même, vous n'avez pas peint sur les verres?
Oui, j'ai peint, mais j'ai dit au début, avant tout, j'ai exposé et selon la grandeur naturelle, la maquette. Et après, j'ai réalisé librement. Et ce que je ne peux pas regretter, mais c'est l'expérience. Mais au fond, je n'avais pas besoin de plan. Mais pour respecter la tradition, pendant au moins 5-6 ans, j'ai utilisé le plan. Mais c'est tout cela important pour mon développement personnel.
Alors vous êtes parmi les rares artistes qui ne donnent pas de titre à leurs œuvres, ni à vos tableaux. Par contre, quand on vous demande des vitraux, on vous donne sans doute régulièrement des thèmes.
Oui, quand on me donne le thème, je refuse. Parce que, comme Picasso dit, je ne dis pas tout, mais je peins tout. Donc, si on ne me donne pas la liberté, je refuse. Parce que le thème, il peut exprimer leur souhait, mais s'il m'impose, je ne suis plus libre. La création doit être tout à fait libre. Autrement, il vaut mieux faire le portrait de Mao pour gagner sa vie.
Votre œuvre vitrail est exposée jusqu'à la fin de l'année 2011, 31 décembre 2011, au Centre international de vitrail à Chartres. Et donc les auditeurs peuvent venir découvrir les vitraux à travers des copies, mais des copies que vous avez réalisées vous-même dans l'atelier Loire. Vous avez fait en 2006, en hommage à l'évêque Fulbert, dont on a fêté à cette époque-là le millénaire, deux vitraux pour la chapelle Sainte-Catherine dans la crypte de la cathédrale de Chartres. Et là, vous vous êtes limité à un choix très restreint de couleurs. Parlez-nous de la symbolique de la couleur telle qu'elle est mise en œuvre.
Oui, là aussi, ce n'est pas tout à fait réussi, je pense, mais je voulais exprimer ce que j'ai reçu de la cathédrale de Chartres. Et si vous voyez les couleurs, c'est le reflet de la cathédrale de Chartres.
Avec le rouge,
oui,
et le bleu.
Jaune, bleu, oui.
Les couleurs de Marie, les couleurs des fonds, des verrières, qui font resplendir justement l'intérieur.
Mais surtout, ces trois couleurs sont attribuées l'amour trinitaire, si vous voulez, symboliquement.
La lumière jaune aussi, et la lumière divine,
oui.
Pas seulement la joie.
Oui.
Vous avez fait des vitraux dans beaucoup d'autres pays. En Irlande, vous avez consacré à Saint-Patrick une série de panneaux. Là aussi, vous avez repris les couleurs de l'arc-en-ciel.
Oui, oui. Parce qu'on m'avait demandé la passion de Christ, n'est-ce pas, le thème. Alors j'ai dit, je ne peux pas vous satisfaire, mais je ferai un croquis, et si vous acceptez, je le fais, sinon, non. Même la passion, s'il n'y a pas de résurrection, ça n'a pas de sens. Alors j'ai fait une sorte de cheminement.
Avec le rouge qui débute, avec la passion
avec beaucoup de couleurs, mais avec relief, et finalement, toute notre vie, c'est un cheminement portant la croix, n'est-ce pas? Il paraît qu'au début, il y avait beaucoup de gens qui étaient heurtés, mais maintenant très appréciés, il me semble.
Les visiteurs sont très impressionnés. Ils voient tout de suite les couleurs de l'arc-en-ciel, mais ils demandent toujours la symbolique de ces couleurs. Le rouge, c'est une couleur très appréciée dans votre pays, en Corée du Sud.
Sûrement, mais quand il s'agit de rouge, d'après ma connaissance, il y a au moins une douzaine de rouges. Il s'agit de quel rouge? Il y a des rouges très vulgaires, l'autre très noble. Donc il faut discerner la chose.
Pour Saint-Patrick, vous avez choisi un rouge sang qui évoque à lui seul, sans aucune mise en scène, la passion.
Oui.
Ensuite, vous passez au jaune.
Et à la fois, et l'amour.
Et ensuite, vous passez au jaune, qui est la lumière divine.
Oui, l'amour miséricordieux.
Avec le jaune et le rouge.
Qui lave nos péchés.
Et le vert.
Le jaune, c'est le symbole de la résurrection aussi, avec le blanc.
Et l'or, la couleur de l'or.
Oui.
Et le vert, qui va entraîner vers le bleu et le vert.
C'est la paix, n'est-ce pas? Alors, il faudrait... Et le Christ est mort pour la paix.
Et le bleu, qui est la sagesse.
Oui,
la couleur
aussi,
de la Vierge.
Oui, et d'ailleurs, et bleu, je crois, et bien avant, c'était le symbole du diable, mais après, c'est changé. Selon la culture, l'interprétation est différente, donc, et bleu, c'est aussi le ciel, n'est-ce pas? Donc, ce qui est important, que ce soit beau.
En réalité, la couleur du diable était par opposition au rouge divin de la passion, le rouge aussi diabolique, l'enfer, les flammes. Le bleu a été choisi pour les diables au Moyen-Âge pour dénigrer une couleur qui met en concurrence les teinturiers du rouge. Donc par opposition, on demandait au maître verrier de mettre le diable en bleu, le pauvre. Enfin, les pauvres teinturiers du bleu. Donc pour vous, le bleu, c'est le bleu marial d'abord.
Oui, oui.
Et la sagesse divine, sans doute.
Oui. Pour moi, tout soit dirigé et la beauté et la noblesse.
Thank you.
Père Kim, vous qui faites maintenant du vitrail depuis plus de 10 ans, 15 ans, dans le monde entier, vous dites que tout votre art doit aller des ténèbres à la lumière divine. Le vitrail est pour vous l'œil d'une église qui doit être vigilant et transmettre la lumière. Vous avez créé des vitraux à Chartres dans la crypte. Vous avez créé les vitraux de la cathédrale d'Évry et chaque fois vous avez progressé vers plus de lumière, une mise en scène des couleurs les plus belles qui sont pour vous des couleurs symbolisant des valeurs chrétiennes, des vertus. Vous avez fait très récemment à Brioude de la plus grande basilique romane dans le sud de la France, la basilique Saint-Julien, un ensemble de plus de 35 roses pour la partie haute de cette basilique. Parlez-nous un peu peut-être de votre inspiration pour la basilique Saint-Julien.
Vous savez, comme cette église date 1000 ans, au début, quand j'ai gagné le concours, avant tout j'avais peur comment je pouvais assumer et travailler pour telle basilique. Et alors, je dois vous dire, avant tout, j'ai prié là, devant le Christ lépreux. Là, il y a la plus belle crucifixion dans le monde entier, moi personnellement, est là. Parce que l'artiste était lépreux. Et en demandant à Jésus, je ferai le plus beau Christ crucifié, mais guérissez-moi. Et quand il a achevé cette sculpture, sa maladie était transposée sur la sculpture. Alors j'ai fait la même chose, je ne sais pas faire, aidez-moi, aidez-moi. Je ne suis que le mendiant de grâce. Cela m'a calmé pour pouvoir commencer. Et je crois même au début il y avait beaucoup... qui sont été un peu hors de tout cela, puisque l'art non figuratif dans telle basilique, c'est impensable. Mais maintenant, d'après ce qu'on dit, il y a 90% sont pour.
Nous sommes allés dans la cathédrale par une magnifique journée ensoleillée en été, et c'est une lumière colorée très chaude qui rentre désormais par ces fenêtres hautes de la basilique, et tout l'intérieur est transformé. C'est comme une symphonie des couleurs qui inonde tout l'édifice. Pour vous, la musique est très importante. Avant de parler de la musique, je crois que vous vouliez peut-être nous parler de deux projets qui vous attendent, ou même trois projets qui vous attendent très prochainement. Oui. Parlez-nous de ce que vous êtes en train de créer.
Oui, d'abord je dirais quand même la musique, parce que c'est le chant grégorien qui m'a beaucoup aidé, parce qu'on ne sait pas où on commence, où on finit. Donc et mon travail soit comme la mélodie grégorienne. Justement, cette mélodie grégorienne, j'aimerais amener intérieurement à Saint-Pétersbourg. L'année prochaine, j'ai un très grand projet de l'exposition.
Donc 2012.
Oui.
2012.
Oui, au Musée national de Saint-Pétersbourg. Il y a, je crois, 6 salles sont réservées pour moi. Les vitraux, céramiques, la peinture. Et je ferai aussi autre chose, mais ça sera aussi une manière de répondre et à l'art des icônes. L'icône, j'aime beaucoup, je médite, mais s'il dit qu'il n'y a que cela, où est la création? Quelquefois, ça me gêne, même ce qui est très encourageant pour moi. Un moine artiste d'icône m'a dit, je vous envie, parce que je ne suis pas libre.
C'est vrai que l'art de peindre les icônes est très figé.
Oui.
Il y a un rituel,
c'est un travail spirituel, artisan, je respecte beaucoup, mais si on ne dit que cela est l'art sacré, ça me heurte.
Alors ce projet d'exposition qui va se faire en 2012 me permet de rappeler que vous êtes un grand, non seulement un grand admirateur de la cathédrale de Chartres et de ses vitraux, mais aussi un donateur, puisque vous donnez des tableaux qui sont vendus au profit de la restauration des vitraux de la cathédrale de Chartres, et je pense que c'est l'occasion de vous en remercier.
Oui, j'aimerais, non, je vous en prie, c'est très peu de choses, mais ce qui est important, c'est la disposition du cœur.
Donc le chant grégorien vous a été, vous a porté dans votre démarche spirituelle. C'est un chant qui vous calme, qui vous remplit, qui vous satisfait.
La raison est très simple. La parole est la parole divine. La mélodie doit obéir à la parole. Donc il n'y a pas de bavardage dans cette pièce, n'est-ce pas?
Le chant grégorien calme, oui. Calme oui. Par son rythme.
Oui, oui.
C'est l'âme et
thérapeutique. Thérapeutique. Que mon travail soit comme cela. Ce qui manque est dans la musique grégorienne, que ce soit exprimé par la couleur et le mouvement aussi, ça se complète.
Est-ce que vous écoutez de la musique quand vous peignez sur le verre?
Non, pour ne pas insulter la musique, je ne fais pas la chose. Et puis surtout maintenant, et mon oreille est devenue un peu mauvaise, alors je suis privé d'écouter la musique.
Vous vouliez parler d'un autre projet à Autun?
Oui.
Peut-être pour nous annoncer quelque chose qui vous tient à cœur?
Aussi, parce que j'aime beaucoup en Bourgogne. Je dois dire autrement, j'aime autant la région de Bourgogne que la cathédrale de Chartres, parce que ça me complète. Et surtout, dans la cathédrale d'Autun, il y a des reliefs, la sculpture. Quand j'ai vu dans la salle capitulaire des reliefs, j'étais vraiment emballé comme la première visite dans la cathédrale de Chartres. Ici, à Chartres, c'est la grandeur m'écrase, mais là-bas, c'est tellement intime. Quand j'ai vu, là, je vais donner un titre de l'exposition, « 1000 ans sont comme un jour ». Et là-bas, le relief, la sculpture remonte à 1000 ans, mais c'est tellement moderne. Donc, dans la beauté, il n'y a pas d'âge. C'est toujours présent.
C'est vrai que si aujourd'hui un artiste représentait le Christ comme on a autour de l'an 1000 représenté les Christ, on reprocherait à l'artiste une déformation des dimensions et de l'anatomie en réalité. Il fallait exprimer le divin et le surnaturel. Oui. Cher Père Kim, nous sommes arrivés déjà trop vite à la fin de notre entretien. Je vous remercie infiniment de nous avoir donné de votre temps, de nous avoir parlé de votre création, de votre œuvre en vitrail. Si les auditeurs de Radio Grand Ciel veulent découvrir votre œuvre, venez à Chartres au Centre International du Vitrail où vous pouvez voir les vitraux du Père Kim, sa peinture et sa céramique. Et peut-être un jour vous allez le croiser, car le Père Kim vient toujours à Chartres, qui l'inspire et où il est heureux de retrouver l'inspiration artistique qui le guide aussi pour l'avenir. Cher Père Kim, merci beaucoup. Chers auditeurs, au revoir et à très bientôt.
Merci. Allez.